D'abord, on va accueillir Carl de Miranda. Bonsoir, merci d'être avec nous, monsieur.
Bonsoir Jean-Marc, bonsoir aux auditeurs.
Merci de venir ce soir pour parler positif, mais surtout pour nous parler un petit peu de votre ressentiment, de votre sentiment par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Alors, on rappelle que vous êtes conférencier, auteur de nombreux livres magnifiques du reste, dont le dernier est aux éditions Jouvence, des livres sur les chemins du bonheur, les 10 étapes clés sur le chemin du bonheur en particulier. Vous êtes l'auteur de beaucoup de livres, mais d'un cheminement personnel d'abord exceptionnel autour du bonheur. Avant qu'on parle un petit peu de comment vous vivez cette période actuelle et comment vous la sentez, racontez-nous un petit peu ce cheminement. Qu'est-ce que c'est, 25 ans? Quelque chose comme
oui,
ça?
Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça fait un peu plus de 25 ans. Disons que vers l'âge de 20 ans, j'avais en quelque sorte coché tous les voyants ouverts par rapport à ce que nous proposait ce monde moderne pour être heureux, soi-disant. Donc j'étais entré à l'école polytechnique, socialement, amicalement. J'avais une belle vie, a priori, mais au fond de moi, je ne me sentais pas heureux. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Je ne voyais pas dans les modes de vie qu'on me proposait vraiment un véritable sens. Et du coup, je me suis mis en quête de bonheur, une quête intense qui m'a amené à découvrir de nombreuses disciplines de développement personnel issues des traditions occidentales et aussi de nombreuses approches orientales. Ça m'a amené à voyager. Et donc, de fil en aiguille, j'ai tiré en réalité un fil petit à petit et ça m'a conduit hors du tunnel, hors du labyrinthe, où j'ai pu enfin retrouver, disons, un véritable bonheur qui s'est installé progressivement dans ma vie.
Alors, dans votre dernier livre, Un monde heureux est encore, et vous avez mis encore entre parenthèses, possible, aux éditions oui. Jouvence, vous abordez tout cela, hein, toutes les valeurs qui sont dominantes aujourd'hui et qui nous empêchent de sentir ou de vivre le vrai bonheur, c'est ça?
Oui, c'est vrai. C'est vrai que, si vous voulez, tout au long de ce cheminement, qui était d'abord un cheminement intérieur, de chercher ce véritable bonheur en soi, mais je posais un regard sur le monde en parallèle et je voyais à quel point de nombreux éléments de ce monde moderne sont dissonants avec cette recherche du bonheur. D'abord, on nous a constamment projetés vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on nous a appris que pour être heureux, il fallait réaliser toutes sortes de désirs, arriver à un certain confort matériel, avoir de l'argent. Alors qu'en réalité, si on se perd dans cette quête extérieure, on n'est pas en contact avec notre intériorité, là où se trouve le véritable bonheur. Et comme vous le disiez, cette projection vers l'extérieur a conduit finalement à ce que, insidieusement, des valeurs modernes s'installent et s'immiscent dans nos vies. Alors c'est devenu de véritables objectifs de vie en soi, le confort matériel, l'argent, le pouvoir, la notoriété, le paraître, le plaisir, les émotions. Tout cela, on pense que c'est ça qui va vraiment nous rendre heureux, qui va donner le sens à nos vies. Mais en réalité, on voit bien que beaucoup d'entre nous ne trouvent pas le bonheur comme ça. Ils sont en souffrance intérieure, ils ont recours à des médicaments pour essayer de trouver de l'équilibre. Il y a une souffrance sociale également, et puis une souffrance environnementale. On s'en rend compte, tout le monde est plus ou moins conscient que nos modes de vie nous ont conduits au bord d'un précipice au niveau de l'état de notre écosystème planétaire.
Dites-moi, Carl, dans votre livre, vous évoquez qu'à l'époque, une époque assez ancienne, mais quand même à l'époque, l'ego, le moi-je personnel, était un obstacle à surmonter et non une divinité. Aujourd'hui, on a l'impression que ce moi-je et que l'ego est une divinité. Vous pensez qu'on va revenir à l'ego, le moi-je, comme un obstacle à surmonter après tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on est en train de vivre maintenant ?
Oui, je l'espère. J'espère que cette période qui est porteuse de nombreuses difficultés, et je pense à tous ceux qui traversent des difficultés en ce moment, bien sûr, mais j'espère qu'elle est en même temps porteuse de lumière et de transformation, qu'elle nous permet de prendre du recul, de nous questionner sur ces modes de vie, sur ces valeurs, sur cette course en avant. En quelque sorte, la planète a mis l'humanité à l'arrêt, alors qu'on était constamment en suractivité. Et ce temps où on se sœuvre, finalement, on est obligé de se priver de toutes ces activités, de toute cette quête de plaisirs illusoires, eh bien nous ramène vers l'essentiel. Et donc ça peut être effectivement un temps fécond. Donc il faut prendre le temps. Alors certains d'entre nous sont pris par les événements et on pense à eux, mais d'autres qui sont confinés peuvent mettre à profit ce temps pour poser un regard sur ce qui se passe. pour essayer de voir ce qui, dans leur vie, pourrait être transformé, pour les conduire vers une vie plus épanouie, plus heureuse. Alors effectivement, l'ego, ça fait partie de ces choses qui se sont installées dans nos vies et qu'on ne remet plus en question. Chacun a un petit moi intérieur et sa vie tourne autour de son moi. Toute la société est ainsi construite qu'on ne le remet plus en question. Mais en réalité, ce qu'on réalise à travers ce que nous sommes en train de vivre, c'est qu'on est beaucoup plus unis les uns aux autres qu'on le croit. On voit bien qu'on est tous interconnectés. Ce qui est arrivé aux Chinois il n'y a pas si longtemps, finalement, ça nous arrive à nous aussi.
Vous le dites d'une manière assez extraordinaire. Vous dites, je vous cite, à New York, un vieux monsieur de Brooklyn est gravement malade parce qu'un animal a contaminé quelqu'un sur un marché aux animaux de Wuhan, au centre de la Chine. Hein, on ne peut plus faire abstraction de ça.
Absolument. En réalité, et c'est ce que disent des scientifiques, une chauve-souris est sans doute tombée malade, c'est-à-dire s'est mise à exprimer, à excréter de son corps un virus qu'habituellement elle porte en elle de façon saine, mais la dégradation de l'habitat naturel de ces animaux ainsi que sa présence sur un marché aux animaux a fait qu'elle a certainement excrété ce virus, peut-être transmis à un animal intermédiaire, et finalement ça a sauté et c'est revenu à un être humain qui l'a propagé ensuite. Et on voit donc qu'en fait l'action humaine de déséquilibre sur la nature nous revient comme un boomerang. Et donc, on est connecté à ces animaux qu'on déséquilibre, on est connecté à ces plus petits micro-organismes que sont les virus qui se propagent entre nous, et on est connecté bien sûr les uns aux autres. On est bien plus les maillons d'une chaîne que des îles isolées les unes des autres.
Oui, justement. Puis il y a les tenants de fermer les frontières qui doivent malheureusement constater que ça sert à rien du tout, bien au contraire. Quoi. On voit bien qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une aide qui vient des uns chez les autres, avec les autres, pour les autres, on n'y arrive pas.
Absolument.
Il y a peut-être quelques îles qui sont un tout petit peu encore à l'extérieur. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Hein.
Absolument. En tout cas, c'est vrai que à chaque fois qu'on voit des exemples de solidarité entre les pays en ce moment, j'entendais au journal tout à l'heure cet exemple de patients qui ont été transportés depuis Strasbourg vers la Suisse. Tout ça, ça fait chaud au cœur. Et puis même, on voit, là, moi, je suis en France et on voit dès que les régions se soutiennent les unes les autres, on sent quelque chose dans ces moments-là, dans ces moments difficiles, dans ces moments tragiques parfois. Eh bien, quand il y a une solidarité qui se met en place, il y a quelque chose qui vibre dans le cœur de chacun et qui peut être porteur d'enseignement.
Mais il y a autre chose, et vous le dites bien aussi dans ce texte que je cite, « Entre ombre et lumière au temps du Covid-19 ». En fait, on a un espèce de colosse, hein, le monde, avec les technologies. On a répondu pratiquement à toutes les questions, ou presque. On cherche encore 2-3 questions, à part les questions d'ordre spirituel, évidemment. On cherche, on cherche, on cherche. Et puis on trouve, on a un colosse de plus en plus solide, et hop, pied d'argile, avec un petit virus. En fait, je dis un petit virus parce qu'il est tout petit. Je veux dire, il fait beaucoup de dégâts, mais il est tout petit. C'est quand même fou de se dire que, on regardait avec en souriant les gens qui étaient victimes de la peste à l'époque, la grippe espagnole, etc., etc. On se disait, ça n'arrivera pas plus, on a trouvé les solutions, les scientifiques, les médecins, etc. Et puis non.
Eh oui, c'est une grande leçon d'humilité. C'est un peu un château de cartes qui s'effondre tout d'un coup, patatras. On réalise qu'on est beaucoup moins puissant qu'on ne le pensait. En fait, on s'est beaucoup conçu comme des dominateurs de la nature, comme si on était au-dessus, qu'on était les maîtres de la terre, on exploitait la nature. Et tout d'un coup, on réalise qu'en fait, on est partie intégrante de cet écosystème planétaire. Et que s'il est malade ou s'il est en déséquilibre, nous-mêmes sommes déséquilibrés. Et en réalité, on est bien plus comme un enfant qui se nourrirait au sein de sa mère, qu'est la nature, plutôt qu'un maître de la nature. Et donc, il y a cette leçon d'humilité qui vient en même temps que cet épisode.
Karl, comment vous voyez l'avenir ?
En tout cas, ce que je me dis, c'est que dans cette période actuelle, il y a une opportunité aussi qui est présente pour que vraiment chacun d'entre nous prenne le temps d'essayer de sentir comment il pourrait infléchir les choses à l'avenir. Ça fait un moment qu'on nous parlait à tous des dangers qui sont en train d'arriver avec l'environnement. On nous a annoncé qu'un million d'espèces allaient sans doute disparaître dans les années à venir parmi les 8000 espèces actuellement présentes sur Terre. On nous a annoncé, des scientifiques, de nombreux dangers à venir. Et là, il y a vraiment ce coup d'arrêt qui vient nous toucher dans notre quotidien. Il faut qu'on sente que notre mode de vie tel qu'on le vivait avant conduit à une impasse. Et donc, il faut ajuster des choses. Alors, ça ne va pas se faire en un jour, évidemment. Mais quand on va revenir à notre activité moderne, eh bien, il faut qu'on ait des points d'inflexion. Il faut qu'on ait des petits changements qu'on mette en place pour essayer de retourner vers une vie plus équilibrée, plus centrée sur l'essentiel, plus respectueuse de la nature et des animaux, moins dans cette quête compulsive du plaisir, de cette quête de la réalisation permanente des désirs.
Pourquoi est-ce qu'il faut, ou une guerre, ou il y a même eu deux guerres, hein, même plusieurs, mais pourquoi est-ce qu'il faut des guerres et des épidémies, des pandémies pour que ça réagisse et qu'on se pose la question, alors que depuis des années on sait que la planète va pas bien, on sait qu'on emporte une responsabilité, on voit bien maintenant ça s'est dépollué, là ça c'est le côté un peu entre guillemets positif de la chose, mais pourquoi est-ce qu'il faut tout ça, à votre avis en conclusion, Karl ?
Disons qu'il y a une puissante inertie qui est dans le cœur et dans chacun d'entre nous. Nous sommes porteurs, en fait, de cette inertie. On cherche tous le bonheur, mais on le cherche plus ou moins adroitement. Et on mûrit, petit à petit. Et ce sont les épreuves, telles que celles-ci, qui sont vraiment porteuses d'enseignements. Alors voilà, je dirais que parfois, il faut ce qu'il faut. Parfois, la leçon est dure et amère, mais il faut l'apprendre avec optimisme et garder notre enthousiasme. En ce moment, soyons patients, soyons courageux, ne nous laissons pas submerger par la peur et restons positifs. Et quand l'activité va reprendre, ne soyons pas comme dans ces régimes où on a perdu quelques kilos et tout d'un coup on les reprend immédiatement à la fin du régime. Gardons quelque chose de ce qui se passe en ce moment pour évoluer vers un monde plus heureux.
Merci beaucoup. Et vous revenez quand vous voulez dans la ligne de cœur, Karl. Merci infiniment. Je rappelle votre dernier ouvrage, hein, puisque cet Un monde heureux est encore, entre parenthèses, possible aux éditions Jouvence. Merci infiniment.
Bonne soirée à tous.
À vous aussi, bonne nuit. Au revoir, merci.